Alors, maintenant, nous sommes avec Marie-Ève des Apatrides Anonymes.
Salut,
bonjour, Marie-Ève.
Salut, salut.
Alors, je te laisse à la chronique des Apatrides Anonymes.
Oui, je vais vous parler. Aujourd'hui, on va rester en territoire canadien. Vous savez, des fois, on arrive avec des nouvelles plus internationales, mais aujourd'hui, j'ai décidé de donc rester dans ce... Dans ce territoire où la GRC règne en roi et maître. Mon premier sujet, en fait, c'est que je vais vous parler du fait que le gouvernement canadien à Ottawa retarderait l'arrivée de réfugiés pour des raisons d'argent. Rien de moins. On le sait qu'ils le font des fois pour des raisons idéologiques, là, mais bon, pour des raisons d'argent, c'est rare qu'on l'entend dit comme ça. C'est que, si vous vous rappelez, en janvier dernier, le gouvernement canadien s'était engagé à accueillir 10 000 nouveaux réfugiés syriens. Bon, on était vraiment là au plus fort de la crise syrienne, puis des combats en Syrie entre avec l'État islamique, le groupe armé État islamique, qui, bon, depuis... a entraîné évidemment bon beaucoup de destruction de maisons et donc beaucoup de réfugiés syriens. Donc le gouvernement s'est engagé à accueillir 10 000 nouveaux réfugiés syriens au cours des trois prochaines années, pardon. Et quelques mois avant ça, plutôt en 2014, il avait promis d'ici la fin 2014 d'en accueillir 1300. Finalement, ben ça s'est pas concrétisé. Il a fallu attendre à la fin mars pour qu'il remplisse sa promesse d'accueillir là 1300 réfugiés. On apprend que, comme je vous le disais, donc on apprend qu'en novembre dernier, le gouvernement demandait à ses missions à l'étranger de déterminer les dossiers qui pouvaient attendre en 2015. Apparemment, la Syrie était exclue de cette directive-là. Comment ça fonctionne un peu l'arrivée, comment devait fonctionner l'arrivée des réfugiés syriens? C'est que la plupart des 1300 réfugiés devaient être pris en charge par le secteur dit privé. C'est le jargon qu'on utilise là, dans le langage gouvernemental. Ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'ils sont parrainés par un proche. Et alors que le gouvernement canadien, lui, avait pris la responsabilité et financière et logistique de l'installation de 200 d'entre eux. Le programme, lui, d'aide à l'établissement réfugié, aurait un budget de 54,9 millions. Fait que là, on sait pas trop. T'sais, le gouvernement ne dit pas si l'engagement envers les réfugiés syriens était la cause de l'épuisement du budget. Puis il a pas non plus précisé le nombre de réfugiés d'autres pays qui ont été mis en attente. Donc, effectivement, cette situation-là soulève quelques questions. D'ailleurs, premièrement, pourquoi, et non la moindre, pourquoi le gouvernement, en s'engageant à accepter considérablement plus de réfugiés, c'est-à-dire, bon, 10 000 Syriens, pourquoi le gouvernement a-t-il pas augmenté le budget du programme d'aide à l'établissement des réfugiés? Parce que sinon, ce que ça implique, ça veut dire que d'autres vont écoper. Puis d'ailleurs, on ne sait pas, comme je vous le disais, combien de réfugiés d'autres pays ont été mis en attente, comme c'était au téléphone, mais c'est presque ça, ont été mis en attente prolongée, disons, pour leur arrivée ici. Puis l'autre question qu'on peut se demander aussi, c'est si le budget reste le même, est-ce que le Canada va véritablement arriver à remplir ses engagements d'accueillir un 10 000 supplémentaire? Parce que dans le 10 000, le 1300 n'était pas inclus, là. Donc, est-ce que le gouvernement va arriver à remplir son engagement d'accueillir 10 000 réfugiés syriens supplémentaires? C'est à se poser comme question. Une chose est sûre, c'est que ça donne l'impression que ça a vraiment été fait à la va-vite, puis sous le coin de la table, cette politique-là, et que la situation des réfugiés, pas juste syriens, mais des réfugiés en général, n'est pas vraiment pris au sérieux par le gouvernement canadien parce que si on prend des engagements, on ne prend pas la peine de chiffrer ce que ça va demander, on ne prend pas la peine d'établir des directives claires sur comment on va procéder puis s'assurer que les choses se fassent dans des temps raisonnables. Pour moi, c'est de la négligence et c'est clair que c'est de la négligence et donc c'est difficile de voir ça autrement que le gouvernement ne prend pas au sérieux la situation des populations réfugiées dans le monde et qui demandent le statut ici au Canada. Je vais faire un peu de chemin sur là-dessus parce que mon deuxième sujet est, disons, relié au premier. Bon, vous le savez, les apatrides anonymes, on s'efforce d'informer les auditeurs en profondeur sur les politiques en matière d'immigration, sur les mesures sécuritaires en matière d'immigration, etc. Mais au-delà des chiffres puis des analyses, ce sont souvent les histoires des personnes directement affectées par ces mesures-là et par ces politiques-là qui sont les plus parlantes, qui évoquent, qui illustrent encore mieux l'injustice de ces politiques. Et c'est ces histoires-là qui importent le plus, d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, je voudrais un peu me faire le porte-voix d'une famille, en fait, qui vit, qui souffre des politiques canadiennes en matière d'immigration. Je vais vous mettre en contexte avant de vous les présenter. C'est que, comme vous le savez peut-être, depuis quelques années, c'est de plus en plus difficile d'obtenir leur statut au Canada, que ce soit le statut de citoyen ou le statut de résident permanent, et particulièrement dans le cas des parrainages. Il y a d'abord les délais qui, selon les dernières informations, ont doublé, voire triplé dans les cas de parrainage de conjoints. Ce qui veut dire que non seulement ça laisse des milliers de personnes dans un vide légal qui les empêche de travailler, donc les maintient dans la précarité, mais également ces délais séparent des familles de leurs proches et souvent aussi de leurs enfants. Donc, c'est le cas d'ailleurs de Assad et Fatima Daoud, qui attendent depuis un an et demi l'arrivée de leur fille qui est coincée en Jordanie. Assad Daoud, lui, est né en Jordanie, mais a grandi en Alberta d'un père canadien. Donc, il a obtenu, lui, sa citoyenneté canadienne par l'entremise de son père. Son épouse, Fatima, elle, est résidente permanente. Et elle a donné naissance à leur fille en 2013, alors qu'elle était en Jordanie au chevet de sa mère mourante. Bon. Normalement, il y a quelques années de ça, il y a plusieurs années de ça, la petite aurait reçu la citoyenneté canadienne parce que son grand-père paternel était canadien. Mais depuis 2009, la transmission de la citoyenneté canadienne pour les personnes qui sont nées à l'extérieur du pays se limite à la première génération seulement. Donc, ça peut se faire par votre père, par votre mère, mais pas par les grands-parents. Puis certainement pas par les oncles et les tantes. Selon Fatima, qui est la mère, donc, ce seront des fonctionnaires canadiens qui lui auraient suggéré de laisser leur fille en Jordanie avec sa famille, avec des proches, puis après ça, de faire une demande de parrainage à partir d'ici, le tout afin de permettre à Fatima de conserver son statut de résidente permanente, parce que si elle était restée en Jordanie trop longtemps, ben là, elle aurait perdu, avec sa fille, elle aurait perdu son statut de résidente. Donc, voilà. Donc, depuis, ben là, le couple attend toujours d'être réuni avec leur fille et ils savent toujours pas quand leur fille va pouvoir venir au pays. C'est que je sais que des situations comme ça suscitent la colère, le dégoût, l'indignation. Nous, on s'efforce de vous en informer, mais il y a des groupes qui existent qui militent pour les droits des personnes migrantes, réfugiées, sans statut, sans papier, pour les travailleurs, travailleuses permanentes, temporaires, pardon. Et donc, je vous inviterai en terminant à l'Assemblée générale de Solidarité sans frontières. Solidarité sans frontières est un groupe de personnes qui militent pour les droits des personnes migrantes, des personnes migrantes et non migrantes qui s'impliquent dans ce groupe-là. Et bon, normalement, ils ont 4 assemblées générales par année qui sont ouvertes. Et la prochaine va avoir lieu la semaine prochaine, c'est-à-dire mardi prochain, le 28 juillet à 18h30. Ça va être au Centre Lorne, qui est au 2390 rue Ride, au métro Charlevoix. Je vais vous donner le site web à la fin de la chronique pour que vous puissiez aller voir les informations. En fait, il s'agit d'un espace pour l'Assemblée générale. C'est vraiment la meilleure façon, si ça vous intéresse, de vous impliquer auprès de Solidarité sans frontières. Puis si les questions d'immigration vous intéressent, c'est la meilleure façon de commencer à s'impliquer à Solidarité sans frontières en allant assister puis en participant à une assemblée générale, que vous soyez spécifiquement si vous êtes vous-même touché par les mesures par les mesures d'immigration. C'est un espace qui est ouvert pour discuter de stratégies, des changements au contexte politique ici. C'est un espace pour amener des propositions aussi, prendre des décisions sur les orientations, planifier les actions à venir pour s'opposer aux déportations, aux détentions, à la double peine, etc. Puis pour s'impliquer, il y a actuellement, il y a 6 comités qui sont actifs au sein de Solidarité sans frontières. Il y a Santé pour tous et toutes qui travaille plus spécifiquement sur l'accessibilité aux soins de santé pour les personnes sans papier ou en attente de statut. Il y a Éducation sans frontières aussi qui est pour la défense également pour l'accès à l'éducation à tous les enfants qui sont sur le sol canadien et québécois sans regard au statut. Il y a Bouffe pour tous et toutes également. Il y a Réfugiés sans frontières. Il y a un comité soutien aussi qui aide les personnes, qui peut appuyer les personnes dans leur démarche auprès, soit les démarches légales ou auprès d'agences, ou en tout cas dans toutes les démarches qui, on le sait, sont assez fastidieuses et longues et compliquées. Il y a un comité qui aide, qui offre du soutien puis de l'appui là, pour s'y retrouver dans toutes ces démarches-là. Et il y a un programme plus vaste aussi de Cité sans frontières pour faire de Montréal une ville sans frontières. Donc, si ça vous intéresse, comme je vous le disais, c'est le mardi 28 juillet à 18h30 au Centre Lorne, qui est situé au 2390 rue Ride. C'est au métro Charlevoix à Pointe-Saint-Charles. Et je vous donne le site Internet de Solidarité sans frontières. Je vous le donne en anglais, mais le site est bilingue, inquiétez-vous pas. C'est www.solidarityacrossborders.org. Et puis, vraiment, tout le monde est vraiment bienvenu. Si vous êtes en accord avec les demandes de base de Solidarité sans frontières, qui est pour la régularisation de toutes les personnes migrantes, de toutes les personnes, peu importe le statut, contre les détentions, les déportations, contre les certificats de sécurité, vous êtes les bienvenus pour vous y impliquer. Alors, voilà, c'était mon invitation de la semaine, parce que des fois, je sais que d'entendre toujours ce qui se passe autour de nous, tu sais, ça peut être un peu
donner un sentiment d'impuissance.
Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Fait que c'est important. C'est important d'avoir des endroits, de savoir comment on peut s'impliquer, on peut faire quelque chose. Puis concrètement, Solidarité sans frontières fait un travail depuis plusieurs années auprès des différentes communautés de personnes migrantes ici à Montréal.
Ouais, c'est toujours bien de le rappeler. Ouais. Alors, merci beaucoup pour la chronique.
Mais merci à toi, Christian, et merci à vous, chers auditeurs de En profondeur.
Oui, donc vous êtes toujours en profondeur, comme le disait Marie-Ève, sur le 90.3 FM